a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream.
My definition, my definition, my definition is this, my definition, my definition, my definition, my definition is this.
I have a dream.
Bonjour escapadiens, escapadiennes, en ce mois de janvier je vous retrouve et il est encore la période de vous souhaiter tous nos meilleurs vœux. Alors, je suis Pascal du Royaume de l'Intermédiaire, je pense que vous commencez à me connaître. Donc, nous avons enfin laissé la période satanique, nous allons rentrer dans une période où nous analysons. Et pour analyste, j'ai pris comme exemple Ariane Bileran. Alors, Ariane Bileran est une normalienne, philosophe, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie et auteur d'une trentaine de livres, comme par exemple « La psychopathologie du totalitarisme ». Elle s'appuie essentiellement sur un maître à penser qui est Hannah Arendt. Évidemment, c'est une personne où j'aime beaucoup son analyse, qui est pleine de clairvoyance. Alors aujourd'hui, je vais aborder le thème qu'elle a abordé, qui est celui d'aimer et celui de s'éduquer. Et tout cela par le biais de l'écran. Aujourd'hui, nous nous éduquons et nous aimons à travers les écrans. Et sa vision des choses est assez intéressante. Alors, elle la voit à travers un écrivain tel que Gunther Anders et tel que Liliane Lursa pour ce qui est de l'éducation. Les correspondances, les notes et journaux intimes des écrivains ont toujours présenté un grand intérêt à ses yeux. Ils éclairent une œuvre, apportent des réponses à des questions en suspens, fourmillent de réflexions savoureuses qui sont rarement assumées dans la manifestation officielle des autres récits. Dans les notes de Gunther pour une autre histoire de sentiments, rédigée à New York en 1947 et 49, le philosophe se met en quête de l'amour. Quel était le rôle de l'amour dans les générations l'ayant précédé? Telle était sa question. Philosophe de circonstances, comme il se nomme lui-même, Anders interroge la façon d'aimer avant de celle de son temps. Les liens entre la sexualité et le pouvoir, les endoctrinements subtils de la génération, de ses étudiants, la différence des sexes. Cette histoire des sentiments lui semble fondamentale à la compréhension d'une époque, mais aussi au filigrane à celle du totalitarisme ou encore, comme il le disait lui-même, à l'identification des situations souvent totalitaires telles que l'hitlérien et si bien camouflées. Le tabou, architecte de l'âme. Son premier constat, le 28 novembre 1947, est « Aujourd'hui, nous sommes très loin de faire encore ainsi de l'amour une religion. L'idée de mourir par amour nous paraîtrait extrêmement saugrenue, car nous n'avons pas de philosophie de l'amour. Pas même une doctrine minimale, j'entends, dans nos philosophies explicites ou implicites, nous avons tout simplement laissé tomber l'amour. » Ensuite s'ensuit que chacun a le droit, mais surtout l'obligation, de s'interroger sur la place et la fonction à accorder à l'amour dans la vie et dans sa propre vie. Cette éviction de l'amour est un pieux mensonge, car nous pouvons laisser tomber l'amour, mais lui, il n'est pas prêt de nous laisser tomber. Les jours suivants, Anders poursuit sa réflexion. La cause principale de ses désintérêts réside d'abord dans les arguments publics. Militer pour une cause désengage de l'amour. Il a aussi la suppression des conditions de possibilité d'une vie privée. Dès lors, la subtilité de notre vie privée, psychique, se réduit-elle aussi comme peau de chagrin ? À tel point que le plus subtil d'entre nous ferait aujourd'hui l'effet d'un barbare à côté de sa grand-mère. Elle, qui pouvait encore se permettre de pratiquer tous les jours des décennies durant ses exercices de doigté de l'âme et ses études de mélancolie. Les sentiments se rétrécissent comme peau de chagrin. Plus personne ne s'épanche sur ses états d'âme, l'amour est relayé à la cave. Même la vie intérieure n'intéresse plus. Qui s'écoute soi-même ? Qui s'observe par le trou de la serrure ? Ses occupations nous sont inconnues. Il n'y a plus de trou de la serrure car il n'y a même plus besoin de clé. On n'a plus besoin de clé car il n'y a plus de porte. Il n'y a plus de porte car la chambre noire d'hier est à présent une pièce comme les autres. Anders suppose que la suppression du tabou, architecte de l'âme, a conduit tout à la fois à la perte de la moralité et de la vie intérieure, mais aussi à l'exhibition dégoulinante des sentiments, devenus bons sentiments avant leur éviction pure et simple. Or, la qualité littéraire des grandes tragédies provenait essentiellement d'une possible et angoissante rupture du tabou, c'était bien. On fonçait dans l'inconnu, dans quelque chose de secret. Le philosophe relie cette suppression du tabou à la perte des racines et de la filiation. Alors que, dans les générations précédentes, il avait existé des lignées autour desquelles les uns et les autres avaient pu se construire. Eux n'ont pu s'appuyer sur rien. Ils ont dû pousser sur du vent, servir eux-mêmes de substitut à la lignée et ne devoir cela qu'à leur force de caractère. Certains ont poussé déracinés dans les airs. Et puis, un dernier diagnostic. Il ne nous est pas donné d'éprouver l'ennui. La recherche perpétuelle de nouvelles excitations par de nouvelles expériences nous empêche de nous retrouver nous-mêmes. Sur ces belles paroles, avant de continuer les notes d'Anders, au travers de l'analyse d'Ariane Bileron, nous allons écouter Down avec Even If We Disappear.
Para poder
Voilà, vous étiez en compagnie de Down, Even If We Disappear. Et oui, je continue à vous transmettre ma passion coréenne en ce qui concerne la musique. Vous êtes toujours sur le Royaume de l'Intermédiaire, dans le 102.0, 103.3 et le 104.1. Vous pouvez retrouver nos émissions sur Radio Escapade, www.org. Je l'ai inversé, excusez-moi pour ma dyslexie. Dans ces notes, nous allons continuer. Dans ces notes de Ariane Bilan, elle relève qu'Anders nous fait découvrir le contenu de coffres que ses parents s'étaient faits avant la guerre de Pyambourg, qui lui parvinrent bien après leur mort dans sa mansarde. Que contenaient ces coffres ? Des lettres de jeunesse, des lettres d'amour, des correspondances conjugales, des journaux intimes. Aurait-on idée aujourd'hui de se faire envoyer outre-mer des coffres entiers de lettres d'amour ? Or, ces lettres portent toutes sur les états d'âme, comme ces lettres à l'ami qui seul peut entendre parler du mari et de l'amant, de la tension de la vie et de l'amour. Le philosophe poursuit sa réflexion sur l'accès des femmes aux droits masculins, à la vie hostile du dehors. Il écrit des pages qui aujourd'hui seraient immédiatement brûlées par centaines d'idéologies, mais ne manquent pas d'intérêt quant aux relations étroites entre sexualité, amour, pouvoir, avec une grande lucidité. En forçant le trait, on peut dire que l'égalité des droits ne lui a pas apporté les mêmes droits de l'homme, mais les mêmes droits à la réification. Anders ironise aussi sur ses étudiants endoctrinés par une certaine psychanalyse de l'époque, de tout sexuel rejetant l'amour. Mais alors, que dirait Anders aujourd'hui ? En refermant ce livre, que dirait-il de nous ? Puisque déjà à son époque, il trouvait que l'on n'aimait plus et que l'on ne savait plus aimer, que dire de notre présent, où l'on ne milite même plus pour une cause ? Où sont les utopies qui nous aidaient hier à vivre, ces fameux lendemains qui chantent ? Au mieux, nous sommes priés d'acheter un bouquet mal assorti où il serait nécessaire de vivre la désertion, le malheur et la tourmente avant qu'un renouveau surgisse ? Autant dire qu'après l'hiver vient le printemps. La question première que me posent les patients en consultation est oui, où fuir ? La deuxième, que faire ? Il est loin le temps où nous refaisions le monde en fumant, buvant, jouant, riant ensemble. Il m'est alors venu que l'amour est directement lié à la contemplation, à l'ennui, à la rêverie. Depuis septembre 2001, le monde a basculé dans la paranoïa. L'horreur a pénétré notre quotidien, un monde où les biberons des bébés font l'objet de tests à l'aéroport ou sont confisqués s'ils contiennent du jus plutôt que du lait. C'est du vécu. La terreur et la mort ont été mises au centre de nos préoccupations, pour ne pas dire nos aspirations. Or, notre regard sur la vie doit cultiver la vie et non en être détourné en permanence par la tristesse, l'angoisse du prochain passage à l'acte monstrueux que l'on subira de la part d'un pouvoir ou d'un terroriste fabriqué de toutes pièces. Cette banalité de l'horreur, doublée de la capture des âmes par les écrans, a créé un monde fait de misologie, haine de la rationalité, en référence au Phédon de Platon. De chénocide, de bigarrure, de l'amour et des foisonnantes nuances de l'âme, de misanthropie. La prolifération des écrans dans nos vies a sans doute des conséquences bien plus sérieuses que la seule soumission à la technique et à sa reproductibilité sur les dangers desquels Gunther Anders et son cousin Walter Benjamin nous avaient déjà alertés. Car si la technique contraignait le mouvement des corps pour tordre l'âme et bannir l'homme de certains champs d'action, les écrans figent nos corps, détournent nos regards et suppriment à nos âmes leur nourriture première, la vita contemplativa. Cette vie contemplative était quotidienne avant l'immersion des écrans dans nos vies. Par exemple, lors d'un rendez-vous galant, un homme attendait une femme dans un café 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Ah, celle-là, elle se faisait désirer. Elle n'était pas là ? Était-ce un retard ? Avait-elle eu un accident ? Quel type d'empêchement ? S'était-il ravisé ? Dans cette attente, l'imagination se déployait. Comment la recontacter, l'appeler à son domicile? Et si le téléphone restait sans réponse, rentrer chez soi dans une nouvelle attente qui ouvrait vers tant d'horizons? Aujourd'hui, le même rendez-vous n'a plus du tout la même saveur, n'est-ce pas? Le téléphone portable exige et commande des réponses. Nous voyons si l'autre ou non est en ligne, s'il a lu nos messages. Certains disposent même de la géolocalisation. Excusez-moi. Je connais des parents qui géolocalisent avec tout ce qui se passe aujourd'hui. J'avoue, je suis une parente et je serais même tentée de le faire. Évidemment, de savoir où sont nos enfants. Le téléphone portable est l'instrument de l'immédiateté et du flicage des autres. Fini la rêverie, fini l'attente anxieuse, fini l'espérance, fini aussi un certain rapport à la parole. Comme il était compliqué d'annuler un rendez-vous, je me devais de l'honorer. Impossible de l'annuler au dernier moment en raison d'une paresse de l'instant. Dans cette esquisse attente, des temps d'avant, le téléphone mobile régnait, le rapport perpétuel aux contingences, à la fragilité de la vie, au bonheur éphémère de la rencontre. Le filtre des amours serait-ce ? Mais bien sûr, pour parler avec quelqu'un, il fallait surtout se rencontrer. Et dans les temps hors de la rencontre, il y avait plus la rencontre, mais le rêve qui nourrissait également la correspondance, ces lettres écrites, reçues parfois dans des chassés-croisés comiques. Toute lettre était une invitation à la méditation. Les lettres reçues permettaient de s'arrêter sur chaque phrase pour la relire, la méditer. À l'ère du message jetable instantané, ce n'est souvent plus possible. Écrire soi-même la lettre engageait le corps dans la calligraphie de l'écriture, bien plus subtil que de taper sur un clavier. Il fallait penser aux phrases à écrire et puis il n'était pas si facile de les raturer, encore moins de les effacer. Cette invasion du téléphone mobile dans nos vies est l'une des premières causes aujourd'hui de l'abrasion de la vie intime. Nul besoin d'attendre les consignes d'un pouvoir totalitaire. Et non, nous avons tous vécu et parfois été acteurs de scènes où deux individus censés se rencontrer sont détournés de cette rencontre par cet objet inanimé qu'est l'écran. Et c'est là que se situe le problème. Nos écrans, tablettes, téléphones, mobiles, ordinateurs sont des objets inanimés. Lorsque nous parlons à travers eux, même à des êtres chers, notre corps parle à un objet inanimé. Dans son expérience incarnée immédiate, or, parler à travers un écran ne restitue en aucun cas le cœur de la rencontre, la vibration de la chair de l'autre. Comment l'autre respire, comment ses yeux me parlent, quelle est son odeur, quel est son vibratoire de sa voix, quels sont ses gestes, son toucher, sa tendresse. L'écran abrase tout. Lorsque nous allons écouter un concert de musique, nous sommes enlacés par la vibration des instruments. L'acoustique vous enveloppe, mais pas seulement. La résonance dans la pièce de ces instruments, la communion des respirations, les émotions des transpirations même. Regarder un concert sur un écran chez soi, filtré par les écrans, avec le son feutré et monotonisé, est une expérience beaucoup plus pauvre en sentiments, n'est-ce pas ? Avec les écrans, il existe un éternel filtre entre l'autre et moi. Lorsque je crois l'atteindre, mon corps ne rencontre qu'un objet inanimé. Je vais poursuivre, mais en attendant, nous faisons une petite pause avec Gemma. We disappear.
Doesn't matter after all. Here and now, every promise that we had about to fade away. And all the faces I can never see. And all the places I can never meet. And and all the chases I can never know, and all the traces I can never erase. Now I can see my world grow dark. I tried and tried to mend all of my broken parts, but I can see my world disappear.
Gemma avec We Disappear. Alors, vous êtes toujours en compagnie du Royaume de l'Intermédiaire avec Pascal, qui vous parle évidemment de ses rapports humains, ce n'est pas la première fois, hein, de l'amour avec l'écran et des rapports humains, mais là par le biais et le trou d'une serrure visionnaire qu'est Ariane Billeran. Et elle va nous parler aussi également de cette vision qui a le rapport de l'enfant avec l'écran à travers la vision de Liliane Lursa. Mais pour finir, on va toujours finir avec sa vision à travers Anders Günther. Le passage à l'acte terroriste sur les peuples ayant consisté à, en 2020 à séquestrer et enfermer n'a pas arrangé l'affaire, évidemment. Combien ont déserté depuis les groupes, les loisirs, les corporations diverses et variées, les cafés, les restaurants. D'une part, car l'autre arrêt brutal a entraîné de nouvelles habitudes, d'autre part, parce que revenir dans le groupe supposait de se confronter à des questions morales. Est-ce que mon groupe de tango a exclu les non-vaccinés? Est-ce que mon loisir de cartes a mis en place des bracelets de différentes couleurs autorisant ou non la compétition sportive selon le statut vaccinal du coureur ou son test PCR? Est-ce que mon club d'échecs m'obligera de nouveau à porter le masque? Le règne des écrans est celui de l'idole, l'autre, que je ne vois qu'à travers un objet inanimé qui est essentiellement absent, dont je n'aperçois que, le pâle reflet, se dérobe à la rencontre. Son regard même se dérobe. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, je ne rencontre pas comme en vrai. Or, les yeux ne sont pas seulement des fenêtres à travers lesquelles on regarde au dehors, mais aussi des fenêtres ouvertes au regard des autres, dit Anders. Ces fenêtres ont les volets clos. Ce que les écrans modifient dans nos perceptions mériterait un réel approfondissement. Si Anders se posait la question des relations sexuelles entre hommes et femmes en raison des remaniements de pouvoir, Alors que dire de cette sexualité peu à peu remplacée par des objets inanimés, par des images sur les écrans, par des robots? Il y a là bien pire que les plaisirs solitaires sans écran qui convainquaient au moins un minimum d'imagination. Émoussement des sentiments, exhibition des corps, banalisation de l'horreur et de la haine, ère du puritanisme absolu, des relations gelées et de l'abrasion des sentiments sous couvert de libération sexuelle. Le dernier lieu où les êtres humains ont sans doute encore un lien viscéral à l'incarnation est la guerre. Avec son lot de souffrances, de douleurs, de malheurs, d'horreurs, la guerre que ceux qui la crée engendre derrière des écrans et que ceux qui ne la vivent pas commentent derrière des écrans placés en spectateurs passifs et voyeuristes. Le comble de la monstruosité malgré nous. Nous ne nous étonnons pas que les fusibles d'autant de gens sautent, leurs cerveaux et leurs émotions électrifiés par les écrans, tandis que leur corps et leur âme sont désertés. Ceci est la conclusion à travers son analyse d'André Gunters. Alors je poursuis toujours dans cette histoire de la psychologie et de l'écran, mais à travers donc l'œil de Liliane Lursa. Elle est née à Lipakurtz le 13 mars 1928 à Jérusalem. Elle est morte le 15 mai 2019 à Paris. Fut docteur en psychologie, ancienne directrice de recherche honoraire au CNRS, en psychologie de l'enfant, spécialiste réputée en pédagogie. À la fin des années 90, elle dénonça la méthode globale d'apprentissage de la lecture et ses conséquences. Les méthodes globales et semi-globales ont constitué un handicap dans les apprentissages fondamentaux des enfants. Elle analysa la relation des enfants aux écrans, une relation magique. Un livre, « La manipulation des enfants par la télévision et l'ordinateur », aborde le thème de la manipulation et de l'influence des médias numériques en général, mais aussi la confusion entre la vie réelle et les images. Les écrans font de nous des conformistes qui s'ignorent. La publicité et la propagande peuvent ainsi agir sur les désirs, les goûts, les besoins, les opinions et sur des conduites plus élaborées. Elles peuvent agir sur le jugement, elles peuvent déclencher des indignations, des engouements collectifs pour des objets de consommation, aussi bien que pour des vedettes du sport, de la mode, du spectacle et de la politique grâce à des suggestions fréquentes et répétitives. Mais son ouvrage capital fut « La destruction de l'enseignement élémentaire et de ses penseurs ». Une diatribe menée contre les idéologues des sciences de l'éducation. Forte de son expérience de terrain, elle alerta sur la gravité de l'abandon des méthodes traditionnelles d'enseignement, de l'abolition de la transmission par l'émergence de méthodes aventureuses, toutes plus farfelues les unes que les autres. Les conséquences en furent un désastre dans l'apprentissage du calcul, de la lecture et de l'écriture, désastre volontaire handicapant les enfants et entraînant l'explosion de la dyslexie. J'en suis peut-être le fruit, de l'illettrisme, l'apparition des ZEP, zones à éducation prioritaire, dont les banlieues à forte population immigrée et la disqualification de la fonction enseignante. Elle fut l'une des premières à identifier que les compétences remplaçaient les connaissances dans un projet totalitaire de création d'un homme nouveau, porté par le pédagogisme. Les penseurs des sciences de l'éducation et des IUGFM, cette école totalitaire empêche le développement d'une pensée autonome, promeut le bourrage de crâne et le formatage politique bien-pensance, suppression de pans entiers de l'histoire de France, réduction des grandes classiques de la littérature, théorie du genre et sexualité choisie. Liliane Lursa dénonça une école qui s'arrogeait le droit d'éduquer l'enfant à sa façon. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, pourquoi éducation nationale et non pas enseignement national, n'est-ce pas? Maintenant, je rejoins ce que dit Madame Lursa. Ou plutôt de la déséducation et ne pas l'instruire. Dans son livre « Vers une école totalitaire, l'enfance massifiée à l'école et dans la société », elle écrit « l'école n'est plus l'institution sur laquelle on pouvait se décharger de l'instruction et de certains des aspects de l'éducation des enfants. C'est un lieu qui reflète les vicissitudes de l'époque, en particulier l'abandon moral et souvent matériel de beaucoup d'enfants livrés à toutes sortes d'influences que personne ne maîtrise. Les psychopédagogues ont une conception déterministe de l'enfant. L'évaluation se ramènerait ainsi à une appréciation des aptitudes et des attitudes de chaque enfant. Il suffit de consulter des bulletins remplis à la fin de petites sanctions maternelles par les maîtres, les rubriques proposées pour apprécier les divers aspects de la personnalité et des compétences des enfants peuvent être utilisées à des fins prédictives. L'être en devenir est ainsi enfermé dans le bambin. Il est déterminé. La prédiction d'échec avant tout apprentissage est une absurdité. Soucieuse de l'apprentissage du graphisme comme base de l'écriture, du geste porteur de forme et de sens, elle s'inquiéta du déploiement de l'ordinateur à l'école comme à la maison. L'ordinateur trouble l'apprentissage de l'écriture, entrave le lien entre le geste et le centre du langage dans le cerveau. Pour Lursa, l'écriture en script est à bannir, car elle crée une discontinuité entre le geste et le cerveau, qui trouble la perception des mots. C'est en écrivant qu'un enfant enregistre et accède au sens. Si ces automatismes ne sont pas acquis, il ne peut y avoir ni mémorisation, ni maîtrise du sens. L'éducation nationale fabrique donc en masse non seulement des dyslexiques, mais encore des dysgraphiques à l'écriture illisible. Dans un interview du 28 août 2009 donné à Natacha Poloni, Liliane Lursa indiquait « Un jour, une institutrice à qui je conseillais d'accompagner le geste des élèves, me répondit qu'il était fasciste de leur tenir la main pour leur donner un modèle. » Bravo! C'est sur ces belles paroles que je vais vous quitter, sur ces belles paroles de Madame Liliane Lursa au travers des écrits d'Ariane Billan, que je vous conseille de découvrir à travers différents livres très intéressants d'elle. Je vais vous quitter en vous souhaitant encore et réitérant tous mes meilleurs voeux pour cette année 2014 et nous nous quittons avec Bunjin Home. Thank you.